Bonjour à tous et à toutes. Au micro, David Chemla, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix, une émission sur Radio Shalom, parrainée par La Paix Maintenant et J-Call. Dimanche dernier, on était tous encore sous l'émotion de la libération des quatre soldats qui a eu lieu samedi. Et évidemment, on n'a pas tous fait attention à un événement très important qui s'est passé, à savoir le vote par la commission qui choisit le président de la Cour suprême, du nouveau président de la Cour suprême d'Israël, qui a été donc élu dimanche, Yitzhak Amit, parce que ça faisait maintenant 15 mois qu'il n'y avait pas eu de président de la Cour suprême depuis la démission de la précédente présidente Esther Chayout, qui est partie à la retraite. Et c'était un combat qu'il y avait depuis 15 mois maintenant entre le gouvernement et à sa tête le ministre de la justice Levin, avec, disons, les instances juridiques en place en Israël. Et voilà que, contre les souhaits de ce gouvernement, le nouveau président a été élu. Alors nous avons le plaisir d'avoir à l'antenne aujourd'hui Sylvie Lidji. Sylvie Lidji anime sur WhatsApp un groupe depuis 2 ans, depuis le début de toute l'attaque du gouvernement pour faire une réforme juridique. Il a donc s'est constitué un groupe en France sur WhatsApp qui s'appelle Défendre la démocratie israélienne. Beaucoup de dizaines de personnes suivent ce groupe. Et Sylvie publie régulièrement des traductions d'articles sur ce groupe WhatsApp et suit notamment énormément cette problématique de la réforme juridique. Alors, bonjour Sylvie.
Bonjour.
Alors, justement, je reviens à la question. Comment a-t-on pu, pendant 15 mois, contre toutes les lois en vigueur en Israël, avoir une Cour suprême, Bagatz en hébreu, sans président? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce n'était pas totalement sans président, puisque au départ de la juge Chayout, en octobre 2023, puisqu'elle partait à la retraite, elle a été remplacée par Uzi Vogelman, qui était un président par intérim. Lui-même est parti en octobre 2024. Alors, il a été nommé grâce au principe de séniorité. On y reviendra peut-être. Et lui-même est parti à la retraite donc, en octobre 2024. Et c'est Yitzhak Amit qui l'a remplacé par intérim. Et donc, effectivement, pendant toute cette période, il n'y avait qu'un président par intérim. Pour quelle raison? Eh bien, parce que Levin faisait, enfin Levin,
le ministre de la Justice.
Le ministre de la Justice faisait sa mauvaise tête. Enfin, en réalité, depuis le tout début, depuis le 4 janvier 2023 et son discours sur ce qu'il a appelé la réforme judiciaire et qui était en fait un projet de renversement de la démocratie, quoi, de faire d'Israël une démocratie illibérale à l'image de la Hongrie et de la Pologne. La Pologne s'en est un peu sortie depuis. Levin a refusé de réunir la commission de nomination des juges. Il refusait, tout simplement.
Il voulait même vouloir changer sa composition.
Alors, il voulait changer sa composition, effectivement. Il a fait plusieurs tentatives. Alors, la dernière en date a eu lieu parce qu'il commençait à être pris à la gorge. C'est-à-dire que le 13 décembre 2024, la Cour suprême a ordonné... A fait une ordonnance selon laquelle il était sommé de réunir cette commission, alors qu'il refusait de le faire. Donc, il s'était juré que le juge Amit ne serait jamais président. Et donc, il continuait à faire la mauvaise tête et à refuser. Et le 13 décembre, non seulement il y a eu une ordonnance, parce qu'il y avait déjà eu autre chose avant, mais là, il y a eu une ordonnance qui l'obligeait, avec une date butoir du 16 janvier, à réunir cette commission. Et alors là, il a trouvé une première chose. Il a trouvé ce qu'il a lancé avec son collègue, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar. Ils ont monté une vidéo, un clip vidéo digne des meilleures publicités pour les chips ou pour les boissons gazeuses. Le compromis du siècle. Ils ont fait un compromis. Alors, ça a fait rire beaucoup sur les plateaux de télé en Israël, pas sur la chaîne 14, mais sur les autres plateaux, ça a beaucoup fait rire.
La chaîne 14, pour nos auditeurs, la chaîne qui représente plus ou moins les colons et l'extrême droite israélienne. Et chaîne qui, privée.
Voilà, qui soutient la coalition.
Bien sûr.
Et pourquoi ? Parce que généralement, quand on fait un compromis, c'est un compromis entre deux parties opposées. Par exemple, l'accord qui a permis la libération des otages, ça peut s'appeler un compromis. Or là, les deux ministres qui sont tout à fait sur la même longueur d'onde, ils ont, voilà, ça peut pas être un compromis, quoi. Ils sont.
Bien sûr.
Bon, c'est.
Alors, donc la commission s'est réunie.
Donc voilà. Ensuite, avant qu'elle se réunisse, comme ça a pas franchement marché. Ils ont lancé une campagne de hostile à ce juge Amit, en disant que, en l'accusant d'avoir des conflits d'intérêts, en l'accusant d'une histoire de 3 mètres carrés d'une terrasse de oui. son loge. Enfin, des choses. Ils lui ont cherché des poux dans la tonsure, sans aucun fondement. Et donc, ils ont réussi à tirer encore 10 jours. C'est pour ça que ça a été voté, que la commission ne s'est réunie que le 26 et pas le 16. Parce qu'ils ont obtenu effectivement un délai supplémentaire de 10 jours pour vérifier que Amit était bien cachère, était bien digne d'être.
Donc on a retenu aucun argument contre Amit et il a donc été élu.
Tout à fait. Il a été élu. C'est-à-dire que la commission, cette commission de nomination. Se réunit et doit voter. Enfin, il y a des candidatures et doit voter pour ces candidatures pour que le juge, parce qu'elle ne s'intéresse pas uniquement au président de la Cour suprême, elle nomme tous les juges. Oui. Et donc, en fait, ça fait un an et demi, enfin 15 mois, que les juges ne pouvaient pas être nommés. Donc, oui. Il y avait des carences et il y avait des bouchons, si je puis dire. Il y avait des.
Oui, dans les tribunaux.
Il
manquait des juges pour traiter des dossiers et à cause de l'absence de la réunion de la commission. Oui. Alors, après ce vote, le ministre Levin, de la Justice, a déclaré qu'il ne reconnaissait pas son résultat et qu'il ne voudra pas travailler avec lui. Alors, est-ce que c'est possible dans une démocratie normalement ?
Alors, dans une démocratie normale. Un ministre de la Justice qui arrive en disant « Je n'exécuterai pas ce que dit le garant de la justice et de la démocratie », il est limogé immédiatement. Dans l'heure qui suit, il est limogé. Ce n'est pas ce qui s'est passé en Israël. Parce que lui a dit ça, mais d'autres aussi. Il n'était pas le seul à le dire.
Oui, d'autres ministres aussi.
Alors effectivement, c'est une crise. C'est une crise. Et qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, bon, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas lire l'avenir. Mais vraisemblablement, ce qui peut se passer, c'est que, comme il a refusé de réunir la commission pendant 15 mois, là, il va refuser d'exécuter des ordonnances et des arrêts, et certainement de réunir à nouveau cette commission. Et donc, Bagat, c'est-à-dire la Cour suprême, va venir lui dire « Monsieur Levin, vous avez l'obligation de réunir la commission. » Lui, il va dire « Je ne veux pas. » Une fois, deux fois, on va lui envoyer une date butoir. Il va réunir, et puis et encore et encore, et ça va se poursuivre. C'est-à-dire qu'il va tirer en longueur le plus possible, quoi.
Alors, ce qui est intéressant dans ce vote, c'est qu'il faut le voir dans la perspective, effectivement, de cette réforme judiciaire que veut faire ce gouvernement depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a 2 ans. Et finalement, au bout de 2 ans, le bilan est négatif. Pratiquement aucun des projets qu'il voulait faire voter par la Knesset n'a pu être mis en place, soit parce qu'il a été refusé par la Cour suprême, ou soit parce qu'il n'y a pas eu de vote majoritaire.
Tout à fait. Déjà, alors, le principe de séniorité dont on parlait, c'est-à-dire que en fait, le candidat à la présidence de la Cour suprême est celui, non pas qui est le plus âgé, mais qui est le plus ancien à la Cour suprême. C'est ça, le principe de séniorité. Et il est en place depuis la création de l'État d'Israël, quoi. Donc ça, il voulait le faire tomber. Ça n'a pas marché. Rappelez-vous le critère de raisonnabilité qu'on avait eu du mal à comprendre. C'est quand même parce que c'est du droit anglo-saxon qui ressemble pas au droit français. On avait un peu de mal à comprendre. Ben, finalement, c'est pas passé. Ça a été complètement retoqué par la Cour suprême. Etc. Il y avait d'autres.
Alors, surtout, enfin, si on l'inscrit dans la campagne de mouvement de protestation qui s'est déclenchée suite à ce projet de réforme judiciaire de 2023, on peut en tirer une première conclusion, c'est que la rue a réussi à bloquer ce que vous voulez faire au gouvernement.
Tout à fait, oui, j'écoutais hier soir un Zoom, une émission où sont intervenus des juristes de renom en Israël. Et qui se... Bon, j'ai aussi Moshe Radman, qui est un des leaders.
Il y a la contestation.
Qui est un autre leader de la contestation. Tout le monde se réjouissait, disait, c'est une victoire. Il faut fêter ça, il faut ouvrir le champagne. C'est vraiment extrêmement important ce qui s'est passé dimanche dernier. Et c'est, entre autres, grâce à la ténacité des patriotes, mais des patriotes au sens fort et des vrais patriotes israéliens, de tous ces gens qui sont descendus dans la rue samedi après samedi, et pas uniquement le samedi. Et voilà, les otages sont
après
revenus.
Après le Shabbat.
Enfin, pardon, le Shabbat. En fin de journée, après le Shabbat. Tout à fait.
Ça a commencé en janvier 23.
Voilà.
Et ça s'est effectivement un peu arrêté après le drame et le massacre du 7 octobre, et puis les manifestations reprises, comme on le sait, sur d'autres thématiques qui sont liées à la situation politique. Et voilà. Alors, juste un point, parce que nos auditeurs ne comprennent peut-être pas forcément, à quoi sert la Cour suprême dans le système israélien ?
Alors, à quoi sert la démocratie repose en fait sur trois piliers, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ça, c'est vrai dans toutes les démocraties. Le pouvoir exécutif en Israël, c'est-à-dire le gouvernement, est très lié, étroitement lié, pas totalement indépendant du pouvoir législatif, c'est-à-dire de la Knesset, le Parlement.
Bien sûr.
Et la justice indépendante, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, ce qui s'est passé, les accusations, enfin, les mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou lancé par la Cour internationale de justice, normalement, ce genre de mandat ne peut être lancé que lorsque l'État est défaillant, lorsque sa justice n'est pas indépendante. Et la justice israélienne fait vraiment preuve d'indépendance. Le rôle, pour répondre à votre question plus précisément, le rôle de la Cour suprême, c'est de vérifier le critère de légalité des lois qui sont votées, d'une part, et de vérifier que les actes du pouvoir exécutif sont conformes à la loi, justement.
D'accord.
Et ce qui préserve en fait à la fois l'indépendance et à la fois la qualité de démocratie, puisque personne ne doit être au-dessus des lois.
Voilà. Donc on peut dire en conclusion que sous ce processus vient renforcer ce qui est le fondement de l'État, à savoir qu'il se revendique depuis sa création comme un État juif et démocratique. Le côté démocratique était mis en danger, disons, par rapport à ce qui était fait préalablement depuis 2 ans. Et dans ce combat-là, donc, la population a réussi, en tout cas, à montrer son engagement pour que les deux termes aient le même poids.
Voilà, tout à fait. Oui, un État juif et démocratique.
Et pour tous ses citoyens.
Pour tous ses citoyens. Pour tous ses citoyens, vraiment. Et donc, on peut effectivement se réjouir de cette force, de cette mobilisation populaire, de cette mobilisation citoyenne. Mais ne pas oublier que le danger, quand même, est toujours présent.
Tout à fait. Merci, Sylvie. Donc, dans 15 jours pour ce qui nous concerne. Et on va suivre effectivement les événements de la semaine, notamment ce qui se passe dans le processus de libération des otages auquel nous sommes tous très, très attentifs. Et espérons qu'il se poursuivra jusqu'à que tous les otages soient libérés. Au revoir, à dans 15 jours.